Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, une émission un peu spéciale, puisque nous l'enregistrons à Rome, où Storia Voce est de passage. À l'occasion de notre dernière visite ici, nous vous avions présenté l'École française de Rome, avec Catherine Virlouvet, et nous nous retrouvons donc dans un lieu chargé d'histoire, puisque nous sommes dans la Villa Bonaparte, la même où se trouve l'ambassade de France près le Saint-Siège. Une villa du 18e, qui jouxte le mur d'Aurélien et la fameuse Porta Pia dessinée par Michel-Ange et où les troupes du pape Pie IX se sont rendues face aux armées révolutionnaires italiennes en 1870. Je vous invite donc, pour cette émission un peu spéciale, à découvrir ce joyau de la couronne française, peut-être une des plus belles ambassades de France dans le monde. Elisabeth Beton-Delegue, bonjour.
Bonjour.
Merci. Alors, d'habitude, je dis merci d'avoir répondu à notre invitation, mais c'est vous qui m'invitez dans ce haut lieu. Donc, je vous remercie beaucoup de nous recevoir ici, dans cette magnifique villa. Vous êtes donc ambassadrice près le Saint-Siège. Vous êtes passée par de nombreuses autres ambassades, le Chili, le Mexique, Haïti. Et depuis donc 2019, vous représentez la France auprès de cette institution si particulière qu'est le Saint-Siège. Nous y reviendrons. Elisabeth Beton-Delegue, il y a avant tout ce nom. Villa Bonaparte, qui nous renvoie à l'époque impériale, mais cette villa date en réalité du milieu du XVIIIe. Elle appartenait au cardinal Gonzaga. Qui était ce cardinal ?
Alors, le cardinal Gonzaga est une grande figure, si je puis dire, de la Rome papale. Il venait d'une grande famille, évidemment proche des papes. Grâce à ses relations avec le pape Clément XII, il a eu une belle carrière diplomatique en Europe. Il était nonce notamment à Bruxelles et à Madrid. Et quand Benoît XV est élu, il va devenir secrétaire d'État, charge qu'il va occuper jusqu'à sa mort. Alors le cardinal Gonzaga, c'est un érudit. C'est un homme passionné de son temps, pourrait-on dire, qui est mu par une immense curiosité intellectuelle et un goût pour les arts et les sciences. C'est un mathématicien il se passionne pour les sciences dures. Il œuvre à la création de nouvelles chaires à l'université de la Sapienza, de chimie et de physique expérimentale, se passionne pour tout type d'expérience. Et il va réunir autour de lui, si on emploie un terme un peu moderne, il va faire un peu de cette ville un peu un incubateur de talents, où vont se retrouver des scientifiques, mais aussi des lettrés. Et il va avoir ce souci, c'est un découvreur aussi, c'est un découvreur qu'ils soient artistes ou scientifiques, travaillent pour la science, sont pour l'histoire. Il est féru d'innovation. Il a une fameuse table, comme vous savez, mécanique, qui permet de monter du sous-sol à l'étage. Il y a ici aussi un observatoire, l'astronomie, et c'est aussi un grand collectionneur de tableaux. Il a une collection de plus de 800 tableaux qu'il va aller chercher beaucoup dans les Flandres, mais aussi en France, où il va dénicher des jeunes artistes qui s'appellent Watteau, qui s'appellent Poussin. Et c'est en ce sens-là, je pense qu'il est absolument passionnant, parce que il est complètement ouvert sur le monde dans lequel il vit et il embrasse très large.
Alors vous l'avez dit, c'est un collectionneur. Pour réaliser cette émission, je me suis inspiré d'un livre consacré à la Villa Bonaparte. Il y a notamment ce tableau où on voit cet homme qui est au milieu de sa collection. C'est absolument impressionnant.
Oui, c'est une œuvre de Panini de 1749, où on le voit dans sa collection et on voit même le plan de la Villa Bonaparte. Collection d'ailleurs qui ensuite a été dispersée, je veux dire, donc on n'a pas, je crois, à ma connaissance, d'inventaire précis.
Alors, à l'époque, on est surpris de voir que dans cette villa, à l'architecture au fond très classique en extérieur, eh bien, il existe une influence orientale dans la décoration intérieure et même une influence extrême orientale.
Oui, il était féru des arts d'Extrême-Orient, en particulier de la Chine. Alors, il en reste pas grand-chose, hein, mais autant cette villa était d'une sobriété absolue, avec une construction qui est faite autour du nombre d'or, c'est-à-dire ça aussi on retrouve l'esprit mathématicien. Et par contre, l'intérieur avait été tapissé de papier chinois. Il y avait des porcelaines, des consoles en bois peint. Et les papiers chinois étaient fabriqués à Canton, avec des scènes de chasse, de procession, les oiseaux. Et la villa à l'intérieur, c'est donc sobriété, pureté des lignes à l'extérieur, et puis un côté insolite à l'intérieur. Et il avait notamment deux chambres qu'on appelait, il y avait deux pièces qui encadraient la galerie, donc cette grande galerie, le salon du soleil et le salon de la lune, c'est magnifique, hein. L'une qui était tendue de papier doré et l'autre dans une harmonie de gris perle.
Alors, ensuite, la villa passe de main en main, dont celle de Pauline Bonaparte, et son aspect actuel date de cette époque. Que change Pauline à l'intérieur de la villa ?
Bien, Pauline, elle va acquérir cette villa en 1816, donc l'empereur est déjà à Sainte-Hélène. Elle va complètement la rénover pour la mettre d'abord, pour la mettre à son goût, et aussi installer des commodités, notamment une salle de bain, puisqu'elle était, vous savez, Pauline aimait beaucoup prendre de bain avec du lait d'ânesse, c'était un de ses besoins. Et elle va la redécorer, donc elle va changer la disposition des pièces. La salle à manger où il y avait cette fameuse table qui montait va devenir un salon décoré avec des décors égyptiens, la campagne d'Égypte donc de Napoléon. Elle va y mettre des couleurs qui sont celles qu'elle aime, orange, bleu. Il en reste pas grand chose. Elle va faire aussi cette fameuse volière, enfin c'est que l'on a dans la galerie là, avec ce treillis magnifique. Cette villa va devenir, elle va y dépenser beaucoup d'argent, hein, puisqu'elle va pratiquement mettre la moitié de son prix d'acquisition dans des travaux qui vont être longs. Elle s'en plaint beaucoup. Elle est en même temps très tatillonne parce que elle n'a plus les facilités financières évidemment qu'elle avait auparavant. Oui. Donc si je peux m'exprimer un peu trivialement, elle va compter aussi ses sous. Elle est très très tatillonne dans ses comptes, et elle va donc faire de cette villa, elle va conjuguer les commodités à l'anglaise, l'art de vivre à la française, et ça sera pendant les quelques années, puisqu'elle va l'occuper assez peu, hein, 9 ans jusqu'à sa mort. Elle meurt très jeune. Ça va être, je dirais, vraiment son style à elle, le style de Pauline Bonaparte.
Elle marque, vous l'avez dit, le salon égyptien qui est au rez-de-chaussée, mais il y a aussi le grand étage qu'elle revoit complètement,
parce que notamment elle fait installer d'abord cette baignoire, cette salle de bain, et puis elle va faire une enfilade de salons, un salon de musique. On jouait beaucoup de musique. Elle était sa villa était connue pour ses réceptions qui étaient d'une certaine façon un peu informelles, enfin assez éclectiques, ce qui n'avait rien à voir bien sûr avec les fastes de l'Empire, mais où on jouait beaucoup de musique.
Alors cette villa, est-ce qu'il faut l'appeler Villa Paolina ou bien Villa Bonaparte?
Eh bien, quand elle a acquis cette villa, Madame Mère, Laetitia Bonaparte, ne voulait pas qu'on l'appelle Bonaparte parce qu'elle estimait que la villa était trop modeste pour la sœur d'un empereur, même s'il était déchu. Donc, c'était la Villa Paolina. Et puis, comme vous avez pu voir à l'entrée, c'est aujourd'hui la Villa Bonaparte.
Alors, peu le savent, mais la villa jouxte l'ancien mur aurélien, qui était un mur de défense, donc du centre des États pontificaux. Et c'est là qu'en 1870, les zouaves pontificaux vont se rendre face aux forces révolutionnaires italiennes.
Et oui, il se trouve que c'est décidément cette villa a eu un grand destin, un destin mouvementé. Elle était encore d'ailleurs, elle appartenait encore à des descendants des Bonaparte, et ils sont entrés par la fameuse breccia parce que la muraille présentait des faiblesses à ce niveau-là, d'une part, et puis que l'on était pas suffisamment loin, si je puis dire, du centre de Rome, et suffisamment près du Quirinal, qui était le lieu où résidait le pape. Il y a eu des combats qui ont duré assez peu de temps, enfin je dirais 5-6 heures. Il y a quand même eu malheureusement une vingtaine de victimes, les troupes sont avant que ne soit que le pape officiellement se rende, hein, et que les troupes ne pénètrent dans pour mettre fin à l'état du Vatican qui était déjà réduit à une portion congrue, hein, mais c'est ici que c'est terminé, c'est par cette brèche là que s'est terminé les états pontificaux.
Alors après, évidemment, le pape devient prisonnier,
jusqu'en
1929, les accords du Latran. Quand est-ce qu'elle devient propriété de la République française?
Alors ça, c'est encore une nouvelle histoire, c'est-à-dire que la villa, quand est cédée in fine à une société de bienfaisance prusse, et elle va devenir l'ambassade de Prusse, puis ensuite l'ambassade d'Allemagne, cédée en 1920, et elle va devenir ambassade d'Allemagne, et donc à l'issue de la guerre, elle fait partie des biens confisqués. Et à ce moment-là, la France va la revendiquer, et l'ambassadeur de l'époque, Jacques Maritain, va suggérer qu'on l'achète, et c'est ce qui va se faire. À la suite d'une négociation qui a été longue, puisque elle a pris 3 ans, et c'est Jacques Maritain n'habitera pas cette villa, c'est son successeur, Vladimir d'Ormesson, qui en prendra possession physiquement après des travaux à la fin de 1950.
Alors on ne le sait pas toujours, mais il faut bien distinguer l'ambassade de France auprès de l'Italie et l'ambassade de France près de Saint-Siège.
Ah, totalement. Totalement. Et d'ailleurs, quand il nous arrive d'avoir évidemment des visites de personnalités, d'un ministre, quand il se rend au Saint-Siège, nous donnons rendez-vous, nous changeons de voiture, et le ministre ou la personnalité vient dans la voiture de l'ambassadeur près du Saint-Siège pour aller au Saint-Siège.
Alors, elle devient donc immédiatement ambassade de France près le Saint-Siège avec Maritain.
Maritain négocie.
Et après, c'est d'Ormesson
il y a des travaux qui sont faits, et c'est d'Ormesson qui s'y installe en décembre 1950.
Voilà. Alors, vous êtes ambassadrice. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous êtes arrivée ici, et au fil des mois? Vous êtes là depuis 2019, c'est bien ça?
Oui, avril 2019.
Qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que c'est une ambassade, c'est pas une ambassade comme les autres, la Villa Bonaparte.
Ah ben, je suis arrivée ici avec humilité, curiosité, et un peu intimidée, hein, par un monde complètement nouveau à découvrir, puisque on n'est pas ambassadeur ici près d'un État, on est ambassadeur auprès de l'Église universelle représentée par le Saint-Siège. Donc c'était un monde à décrypter. Sur lequel, évidemment, un monde qui suscite énormément d'interrogations, de mythes, d'histoires, un monde un peu mystérieux. Et donc, c'est un monde qui se découvre, bien évidemment, en multipliant les rencontres, en rentrant dans ce lieu qu'est la Curie, hein, qu'est le gouvernement de l'Église. Alors ça, c'est un aspect, bien sûr, mais ce n'est qu'un aspect, parce que le Saint-Siège, c'est aussi le carrefour du monde. Donc c'est à la fois, si vous voulez, on va dire un objet politique qui est qui a ses propres codes, ses propres modes de faire, qui s'inscrit évidemment dans une dans cette immense histoire et qui est mais en même temps totalement ancré dans le présent et je dirais même dans le futur si vous admettez comme que le pape François a une vision, hein, est un visionnaire comme ses prédécesseurs l'ont été aussi, mais que nous avons là aujourd'hui un pape qui est de plein pied dans la mondialisation qu'il décrypte, qu'il sait décrypter en ouvrant des voies. Et vous avez bien sûr toute cette nébuleuse, je dirais, à côté du gouvernement de l'Église. Vous avez toutes ces institutions qui lui sont rattachées. Vous avez les universités pontificales, les académies, les congrégations, les musées du Vatican. Enfin, donc vous avez tout un écosystème qui est assez fascinant à découvrir. Donc c'est une espèce de recherche permanente, de découverte permanente. Qui est quand même toujours, in fine, une découverte des hommes et des femmes, je veux dire, qui font l'Église.
Donc, en soi, c'est un monde complètement différent de ce que vous avez vécu. Je l'ai dit en introduction, vous êtes passé par le Chili, le Mexique, Haïti, vous avez eu des missions dans le monde entier. C'est un monde complètement différent.
Je vous dirais oui et non. Parce que d'abord, comme je vous dis, c'est un carrefour du monde. Donc moi, je peux vous dire que, par exemple, la première semaine où je suis arrivée, j'ai rencontré un religieux qui m'a dit m'avoir rencontré en Haïti. Ensuite, j'en ai rencontré un autre qui m'a dit « Ah, mais moi, j'étais à Madagascar ». Donc vous voyez, vous êtes toujours dans une...
Dans un monde cosmopolite.
Dans un monde cosmopolite, mais où vous réglez toujours votre focale. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous êtes toujours entre la panoramique et puis vraiment le détail et finalement le Saint-Siège dans toute... Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a beaucoup de diversité. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'intelligence aussi, hein, beaucoup d'intelligence. C'est un monde aussi, en tout cas, vis-à-vis des diplomates, alors et y compris des diplomates au féminin, je veux dire, qui est très bienveillant.
Alors, en fait, vous le disiez tout à l'heure, vous inscrivez dans les pas de Jacques Maritain, de Vladimir d'Ormesson, qui sont des grands noms de la diplomatie française. Comment abordez-vous votre quotidien? Quel est le rôle quotidien d'un ambassadeur près le Saint-Siège?
Il faut bien sûr se placer dans la période contemporaine, hein. Moi, je suis la représentante d'une république, de la république laïque française. Ah, donc, laissons de côté, je veux dire, toute cette grande fresque, je veux dire, de l'ancien régime, puisque nous sommes quand même l'ambassade de France auprès du Saint-Siège est la plus ancienne représentation diplomatique du monde. Aujourd'hui, il y a évidemment un devoir, enfin l'information essentielle, et d'autant plus essentielle que nous sommes aujourd'hui un pays qui est de plus en plus sécularisé. Donc cette information expliquée, c'est très important, expliquer, c'est à la fois expliquer de l'intérieur, dire les rouages de cette mécanique, et puis c'est suivre pas à pas, on peut le dire ainsi, bien sûr, le pape François, qui est en lui-même une figure, qui est en lui-même la diplomatie, en lui-même l'autorité morale, et en lui-même, je veux dire, un homme de gouvernement, puisqu'il y a toute cette réforme de la curie qui se fait et qui se fait pas à pas, progressivement, et qu'il est aussi très intéressant de suivre. Donc information bien sûr dans les deux sens, information aussi sur la politique française, l'action du gouvernement. Donc ça, je dirais, c'est une mission fondamentale, hein, fondamentale, et qui appelle beaucoup de lectures et puis des contacts. C'est un côté passionnant. Il y a le deuxième mission qui est celle de d'être un pont avec l'Église de France, un pont avec le monde francophone aussi. C'est important.
Le monde de la culture, c'est très important. Vous avez un rôle culturel de diffusion de la francophonie.
Il faut préciser là-dessus. L'ambassade de France près de Saint-Siège, elle dispose d'un outil qui est vraiment intrinsèque à sa mission, qui est l'Institut français Centre Saint-Louis, créé par Jacques Maritain, et qui n'a pas aujourd'hui comme vocation de diffuser la culture, qui a vocation de faire dialoguer. Et ça, je pense que c'est fondamental et que c'est cette ligne qu'avait tracée Jacques Maritain, qu'il importe de maintenir dans un contexte qui a fondamentalement changé, c'est d'avoir un espace où on fait dialoguer le monde profane avec le monde religieux à côté d'activités qui sont complètement ouvertes au public romain, puisque le Centre Saint-Louis est aujourd'hui le seul institut français à Rome.
Alors, vous avez bien évidemment un rôle politique. On distingue généralement la diplomatie bilatérale de la diplomatie multilatérale. Est-ce que, du fait de l'universalité de l'Église et du Saint-Siège, est-ce que vous placez davantage sur une diplomatie global, multilatéral plutôt que bilatéral?
Ça, je pense que c'est un trait très très significatif de l'évolution des missions. C'est-à-dire que nous sommes passés d'un horizon bilatéral à une époque où les relations étaient très étroites et où les ambassadeurs aussi influaient sur la nomination des papes ou sur des grandes orientations. Ça, cette époque, elle est révolue pour embrasser beaucoup plus un horizon multilatéral ou celui des sujets globaux, des sujets globaux ou des biens communs, mais des sujets globaux. Nous nous retrouvons évidemment sur la question du multilatéralisme, puisque la France n'a pas qu'une politique visant à défendre ses propres intérêts nationaux, ça va de soi. Donc il y a ce grand champ du multilatéralisme qui aujourd'hui est à la peine. Et qu'il importe, qui doit être reconstruit et forcément aussi réformé, et qui prend d'autres formes, moins institutionnelles, parce que les blocages sont là beaucoup plus sur la création de coalitions, avec un point d'application fondamental, la lutte contre le changement climatique, ne pas oublier le rôle clé qu'a joué le pape François dans les négociations des accords de Paris, où il est intervenu y compris directement jusqu'au dernier moment pour arriver, pour favoriser ce consensus, puisque les accords de Paris, c'est quand même le consensus de l'ensemble des pays du monde, c'est-à-dire c'est même un tour de force diplomatique, et le pape François a joué un rôle très important, et c'est bien avec, en publiant l'encyclique Laudato si, quelques encablures avant la fin de le dernier round de négociations. Et ça, c'est une ligne aujourd'hui de force. On parle changement climatique, on parle biodiversité. Donc maintenant, on est en route vers Glasgow, mais l'engagement du Saint-Père évidemment est constant. Ça, c'est aussi, je pense, un trait important, je veux dire, dans les relations avec le Saint-Siège, c'est que on a en face de soi un interlocuteur ou une personnalité, un dirigeant de l'Église universelle, dont un des critères est la constance. Ça, c'est très différent, je dirais, du monde politique, où on va pouvoir, où les circonstances font bouger parfois les lignes. Je donnerais aussi, évidemment, nous sommes dans cette pandémie, je veux dire, il y a toute une réflexion qui a aussi un volet opérationnel au sein de la Curie à la demande du pape François, ce qu'on appelle la commission Covid, qui est pilotée par le dicastère pour le développement humain intégral, nouveau dicastère qu'il a lui-même créé, qui est un regroupement de différents dicastères, mais là où, dont qui traite je dirais ces sujets transversaux et qui s'agissant de la Covid à la fois un rôle d'alerte, c'est-à-dire de vigie hein, sur les grands sujets, l'accès pour tous au vaccin, enfin, on est sur du très concret, ou l'annulation ou la réduction de la dette des pays les plus pauvres, là, on est là aussi totalement sur du concret, et puis ce discours qui est celui de la dernière encyclique de Fratelli Tutti sur la fraternité comme voie pour avoir une perspective, nous sommes tous dans la même barque, nous nous sauverons tous, nous ne nous sauverons pas tout seuls, il faut retisser en fait du lien de la base, des rapports inter-individuels jusqu'aux relations entre États. Donc ça donne un champ important. Nous parlons aussi des crises régionales, en particulier du Proche et du Moyen-Orient. C'est toujours un sujet qui est abordé lors des visites qui sont régulières du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui vient ici à peu près tous les 6 mois. Donc on a des points de situation avec l'équivalent du ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège.
Monseigneur Gallagher,
ou avec le secrétaire d'État aussi, le cardinal Parolin. On a des sujets aussi où nous ne sommes pas d'accord, dont nous parlons aussi.
À l'heure où nous enregistrons cette émission, la loi sur le séparatisme est en discussion. C'est un moment où vous jouez un rôle, vous expliquez la position de la France, du gouvernement, à vos interlocuteurs.
Alors, vous l'avez dit vous-même, je veux dire, la loi est en discussion, le processus n'est pas achevé. Donc, bien évidemment, nous avons une information qui est à la fois une information de contact, mais aussi en envoyant systématiquement les positions du gouvernement, les déclarations officielles. Mais là, nous sommes dans un processus, la loi n'est pas encore adoptée. Mais il importe de dire que le Saint-Siège ne prend pas parti dans les décisions de politique intérieure de tel ou tel pays. Il se pose sur le plan des principes. Ça, je crois que c'est important parce que il le dit d'ailleurs. Je veux dire, cette neutralité, est le gage aussi d'une parole qui peut être universelle. Ceci se fait d'autres façons, de façon parfois beaucoup plus subtile, si vous voulez, mais sur ce type de sujet, ils sont en écoute vis-à-vis de l'Église de France, comme ils le font sur d'autres sujets avec les conférences épiscopales. Je trouve que ça, c'est un point important aussi. Enfin, moi, qui me frappe, c'est que le rôle beaucoup plus engagé, évidemment, sur les terrains nationaux ou régionaux des conférences épiscopales. Ça va dans le sens, d'ailleurs, de la synodalité que veut le pape François. Donc, on voit bien que les conférences épiscopales, par exemple, ne sont pas seulement des relais. Je veux dire, elles sont engagées dans la vie de la cité.
Merci beaucoup, Elisabeth Beton-Delegue. Il y a une chose que nous n'avons pas dite, c'est que vous êtes la première femme à occuper ce poste, le poste d'ambassadrice. Merci beaucoup d'être venue présenter donc à la fois le rôle de la diplomatie française, mais aussi cette vie-là, ce lieu d'histoire. Une dernière question, lors de la journée du patrimoine, les Français peuvent rentrer facilement?
Dans l'absolu, ils pourraient, mais les conditions sont telles que...
Que ce n'est pas le cas. Voilà. Merci beaucoup, merci chers auditeurs pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce.